J'aimerais vous partager une réflexion ou un approfondissement de différents aspects de la compassion. Lorsqu'on parle des deux ailes de l'oiseau que sont la pratique, on parle toujours de la sagesse qui est l'abandon du moi et de la compassion qui est la conséquence logique, c'est cette mise au service pour autrui. Alors pourquoi est-ce qu'on dit compassion plutôt que joie ou équanimité? Le Bouddha parle des quatre aspects divins. C'est la bienveillance, metta, la compassion, karuna, qui est cette manière sage de saisir l'expérience douloureuse. Je l'inclus. Je lui ouvre mon champ d'énergie, je la prends en moi. Il y a mudita qui est la joie, et plus particulièrement la joie pour la joie d'autrui, parce que ça inclut l'appréciation pour ma propre joie, mais je me vérifie dans la gratuité de l'appréciation pour ma propre joie lorsque je peux vraiment me réjouir de la joie d'autrui. Et l'équanimité, c'est ce qui découle du développement de la bienveillance, de la compassion et de la joie. Lorsque j'ai vraiment travaillé ça en moi, alors peu importe l'expérience, elle est bonne, elle est douloureuse, la conscience reste dans ce que le Bouddha appelle cette inébranlable paix du cœur. Et comme nous l'avons vu, l'équanimité peut être travaillée dans l'instant, juste en me souvenant, ok, j'ai pas besoin toujours d'être dans mes préférences. Je peux apprendre à être sans préférence. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle compassion plutôt que joie ou équanimité? C'est qu'au fond, la joie où le bonheur ne pousse pas l'être à faire un travail. Nous prenons for granted, pour donner l'expérience qui est bonne, et l'attachement est inconscient. Alors que quand l'expérience est douloureuse, l'être est poussé à se mettre au travail. Donc ce que nous développons, c'est la sagesse et la compassion. Le fait de savoir saisir l'expérience douloureuse. Et au moment de la mort, c'est ça qui va nous permettre de dire oui. Ne pas s'accrocher à quoi que ce soit, mais dire oui à ce passage qui en fait arrive à chaque instant. La retraite passée, elle est morte. Demain chez nous, plus de retraite, fini à jamais. Celle-là à jamais. Celle-là à jamais. Tu peux faire le deuil. La compassion, c'est une première motivation. Elle peut être liée à notre propre souffrance, mais elle peut être aussi liée à la souffrance dans le monde. Parce que il y a quelque chose de tellement insupportable dans l'injustice, dans cette difficulté que nous avons, on dépense plus d'argent pour l'armement que pour une quelconque aide au développement. C'est vraiment une motivation. La compassion, c'est quelque chose qui pousse le cœur, qui anime l'être à simplement pour que ce soit supportable. Dans une de mes premières retraites, j'avais passé ma retraite avec cette très très belle prière de Shantideva. C'est la prière du Bodhisattva qui est vraiment cet élan d'altruisme et de générosité. C'est beau, c'est un peu innocent. Quand je la retrouve, j'ai toujours envie de vous la partager. Que je sois un rempart pour ceux qui manquent de protection, un guide pour ceux qui voyagent sur les routes, pour ceux qui désirent traverser la rivière, que je sois un navire, un radeau ou un pont, que je sois une île pour ceux qui ont la nostalgie de la terre ferme, et une lampe pour ceux qui aspirent à la lumière, pour ceux qui ont besoin de repos, que je sois un lit, et pour ceux qui demandent un serviteur, que je me fasse esclave. Que je sois le bijou convoité, une parole puissante, un vase plein, le remède suprême. Que je sois l'arbre au miracle, et pour chaque être, la vache de l'abondance. De même que la terre et tous les éléments, que je sache endurer ma peine, comme le ciel lui-même endure, me mettant au service de la multitude des êtres vivants. Que je sois les racines et le véhicule de leur vie. Ainsi, pour toutes les petites choses qui vivent, en nombre jusqu'aux confins du ciel, que je sois leur substance et leur nourriture, jusqu'à ce qu'elles dépassent les limites de la souffrance. La compassion, c'est aussi cette conscience que la seule chose qui donne sens à ma pratique, c'est que je le fais pour autrui. Et cette compassion, c'est aussi l'ancrage dans l'espérance. C'est le Dalai Lama qui dit « La force d'une brute ne réussira jamais à réduire le désir humain pour la liberté. » C'est cette espérance que malgré tout ce qui peut se passer autour de nous dans le monde, malgré la surpopulation, malgré l'impossibilité d'imaginer l'avenir avec tous les déchets que nous produisons, cette espérance est là et personne ne peut la briser. L'aspiration pour la compassion, c'est quelque chose qui est essentiel. Et savoir que la haine ne cessera jamais par la haine. Qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse guérir l'ignorance, c'est l'amour. L'amour, non pas dans le sens romantique du terme, dans le sens de « je t'aime, toi », mais vraiment dans le sens de cette ouverture à l'instant. Ça n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que... Ou plutôt, pourquoi ? Je désire tellement être libérée. Je mets tellement de force à pratiquer. Et puis, je suis déçue, ça ne va pas si vite que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine manière, la compassion peut être à chaque instant. Et que ce qui bloque, c'est cette ignorance, avidya. Nous n'avons pas d'alternative que de venir rencontrer le moi, que de venir rencontrer toutes ces énergies de l'ombre, nous l'avons déjà dit. Parce qu'avidya, c'est quoi ? Cette ignorance, c'est quoi ? C'est que je prends tout personnellement. Avant d'avoir osé regarder l'instant, je me le suis déjà approprié. C'est un mouvement instinctif de protection. Ça n'est pas seulement une susceptibilité. Lorsque je ne veux pas voir, lorsqu'il y a ce sens du moi, c'est vraiment une opacité de l'esprit à reconnaître et voir comment, sans le voir, je crée un moi qui inflige la souffrance et un toi qui m'inflige la souffrance et vice-versa. Je fais souffrir et je laisse l'autre me faire souffrir. Et de voir ça, de voir comment dans une retraite, ça réagit, c'est pas parfait, ça n'est pas très plaisant. C'est pas très plaisant. Mais qu'est-ce que c'est éveillant? C'est important, je l'ai déjà dit, je le répète, parce que ça revient, les racines sont profondes. C'est pas que j'ai un problème, c'est pas qu'il y ait une faute quelque part, c'est pas non plus de la faute de l'autre, il n'y a pas de tort et de raison. Il y a cette première vérité de la souffrance. Nous voudrions tellement être heureux. Nous voudrions tellement aimer. C'est douloureux d'avoir cette impression de ne pas savoir aimer. Mais bienvenue au club. Un monde parfait, ça n'est pas le programme. Et dans l'expérience de la méditation, il peut y avoir cette impression, je fais mal, oh, j'ai blessé, j'ai fait mal. Alors c'est l'occasion de mettre la lumière. L'autre ne m'aime pas, j'ai pas fait assez, je suis pas aimable. Je ne suis pas aimable. Et c'est pour ça que je suis seule. Il y a ce sentiment de manque. J'ai manqué à quelque chose. Le problème, ça n'est pas le sentiment de manque, parce que ça, c'est du réel. Le problème, c'est que je me l'approprie. C'est que je crois, je confonds le monde conditionné avec le monde non conditionné. Je confonds la source avec la personnalité. Et la seule réponse possible, c'est la compassion. Il n'y en a pas d'autre. Cette urgence à soigner la réponse. L'autre me blesse. La réponse, compassion. J'ai blessé. La réponse, compassion. Et la compassion s'adresse à moi-même, elle s'adresse à l'autre. C'est un soin. Et rien d'autre que ce soin ne va guérir l'aveuglement qui est encore en moi. Dans le Satipatthana Sutta, dans le Sutta de la pleine conscience, le Bouddha parle de se laisser être de l'expérience, cette compassion avec l'expérience qui apprend à ne pas prendre les choses personnellement. Contempler le corps comme un corps. Contempler les émotions comme des émotions. Contempler les pensées comme des pensées. Contempler la conscience comme une conscience. Je suis présent. Waouh, super, la j'étais présent pendant un bon moment. Je suis plus présent. Oh, mais j'étais pas présent. La conscience était là, et puis après la conscience n'était plus là. C'est une autre manière de dire, où je prends moins les choses personnellement. Donc, d'une certaine manière, nous passons de mon irritation, ma dureté, mon manque, ma tristesse, à la peine. Le « mon » qui est particulier devient « le » qui est universel. Et la manière de dire est importante. Nous pouvons soigner la manière de dire. Parce que la compassion... c'est une énergie de non-séparation. Et lorsque nous disons pour moi-même dans l'instant quand ça fait mal, c'est la tristesse. Du coup, cette interconnexion avec les autres est là. Au fond, ce que je soigne, c'est la tristesse du monde. Et dans une retraite, nous avons tout le temps d'apprendre à ne pas chercher ailleurs que dans la compassion. À laisser être l'instant, à le voir, nous avons le temps. Et nous n'avons pas besoin d'être différents. Nous n'avons pas besoin de changer le « qui suis-je ». Parce que le changement se passe tout seul. Il y a trois... Non, je vais le dire autrement. Le chemin qui mène à la libération, dont le Bouddha a parlé, qui est la quatrième vérité noble, c'est un chemin de compassion. Et ce chemin comporte trois aspects que j'ai déjà pris très courtement. Le premier, c'est ce que nous faisons ici, l'exercice de la méditation, qui comporte le travail lié à la concentration, à la pleine conscience, et à cette intelligence intuitive qui questionne quel est l'effort juste. Concentration juste, pleine conscience juste, et effort juste. Ça, c'est la pratique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect lié à la compréhension juste et qui comporte d'une part l'intention ou la pensée juste, comment orienter la pensée autrement que dans se laisser faire de la pensée obsessionnelle liée à moi et mes réussites, mes problèmes. Et la compréhension juste, qui est au fond la sagesse, se souvenir, ah mais c'est impermanent, se souvenir, ah mais c'est vrai, des fois c'est pas parfait, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas parfait? Ben où est-ce qu'il y a de l'attachement? Attends, c'est peut-être bien là. Et étonnamment, nous sommes attachés autant à ce qui ne va pas qu'à ce qui va bien. Et le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle Sila, l'éthique. Et c'est avec ça que nous allons devoir travailler en retournant chez nous. C'est l'acte juste, la parole juste et le mode de vie juste. Et c'est un chemin de compassion. L'effort juste, c'est toujours cette écoute bienveillante. Où est-ce qu'il est bon d'aller? Il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas ce sens du bien et du mal. Ou s'il est là, ok, il est là, je le vois, c'est l'effort juste de laisser être ça. « La concentration, lorsqu'elle est là, nous pouvons sentir l'ancrage, se laisser goûter l'ancrage. Et lorsqu'elle n'est pas là, nous faisons l'exercice. C'est notre travail, être dans l'exercice. Tranquille. Je construis cette concentration. Et quand je suis dans l'exercice, il y a une certaine compassion à avoir. Il y a un effort, j'essaye. C'est pas très drôle toujours d'essayer. Quelquefois l'exercice se pose, il est là gratuitement. Et d'une certaine manière, on passe de la compassion à la joie. Le plaisir, la joie de la pratique, l'intérêt. Et puis après, ok, là il y a plus, j'ai perdu. On parlait de ces facteurs de l'éveil, je les ai perdus, ok. Et la pleine conscience, je ne vais pas parler beaucoup de ça. Je vais peut-être juste vous lire une parole de d'Ajahn Suchito. Le royaume de la pleine conscience n'est pas concerné par le fait d'avoir ou de ne pas avoir quelque chose, ni par le fait d'être ou de ne pas être quelque chose. Il est concerné par le fait de parfois avoir quelque chose et parfois pas, mais de toujours pouvoir l'observer. C'est cela qui permet l'éveil de la sagesse. Donc, dans cette pratique de la méditation, il y a à cultiver la pleine conscience. C'est un entraînement de l'esprit. Et puis, dans l'aspect de la compréhension ou de la sagesse, le souvenir de notre intention est important. Vraiment se souvenir, ce qui donne énormément de force à la pratique, c'est de se souvenir que je le fais pour les autres. De se souvenir que je fais ma part sur cette terre. Et que mon intention, ça n'est pas une intention d'avoir beaucoup ou d'être quoi que ce soit, ou d'avoir un projet important, une ambition personnelle. Non, mon intention, c'est de ne pas vivre petit pour pouvoir vraiment me mettre au service. Et c'est le service, mon intention. C'est Mère Teresa qui disait, on ne peut pas faire de grandes choses dans ce monde. On ne peut faire que de petites choses avec un grand amour. Et quelquefois, nous sommes pris par l'ambition. Et l'ambition, c'est une manière, c'est comme Nasreddin qui cherche ses clés au mauvais endroit, là où il y a de la lumière alors qu'il les a perdues de l'autre côté. Nous croyons que l'ambition, c'est faire notre part. Mais l'ambition, c'est satisfaire quelque chose de trop limité en nous. C'est satisfaire le moi. Nous pouvons vraiment donner à quelque chose d'autre à l'intérieur de nous-mêmes, à quelque chose de plus profond, de plus essentiel et de moins menacé. L'ambition, d'une certaine manière, c'est un moyen maladroit de tenir la menace à distance. Alors le moi prétend. C'est chouchou, mais ça fait souffrir. Nous souvenir de notre intention profonde, notre aspiration à l'éveil, à la libération et à l'amour. Ça, c'est la pensée juste. Et puis, la compréhension juste qui fait partie du chemin, il y a beaucoup de manières de parler de la compréhension juste. D'une manière générale, c'est comprendre dukkha anicca, c'est-à-dire la souffrance et l'impermanence, qui fait partie du monde conditionné, et puis anatta, le non-moi. et ça n'est pas un idéal. Dans le monde quotidien, un peu d'humour est important. Le moi va continuer à jouer son rôle, il va continuer à ne pas être parfait. Si nous voulons vivre dans l'idéal, notre vie est difficile parce que c'est une pensée, ça n'est pas du réel. Mais quel est le réel dans l'instant, hein? C'est, au fond, c'est ça vers quoi nous tendons. Alors, ce chemin du milieu est important. Ok. Le moi fait ses petites combines, hein? Mais en même temps, je soigne autre chose. Il y a une jolie histoire qui s'appelle le pinson. Lors de ma marche matinale, j'ai apprivoisé un pinson. D'abord, une ou deux fois, j'ai réussi à faire venir l'oiseau tout près. Il a pris une graine dans ma main et s'est enfui comme un voleur. Puis il s'est enhardi, il en a pris deux ou trois et a rejoint sa branche. Un jour, il est resté tranquille sur ma main, picorant en observant tout autour. Un matin, surprise, mon pinson picorait dans la main de quelqu'un d'autre. J'avais envie de dire « Monsieur, ce pinson et moi avons une relation. J'ai passé des heures à apprivoiser l'oiseau debout dans la neige, avant qu'il ne descende de l'arbre et fasse confiance à ma main. » Mais je n'ai rien dit. Personne n'est propriétaire du ciel, des arbres. Personne ne peut s'approprier le cœur des oiseaux. Pourtant, étant humain et partial à mes propres succès, sans avoir aucune jalousie ou ressentiment pour les façons des autres, je crois que demain, je vais venir plus tôt. Et le dernier aspect de ce chemin de compassion, c'est ce qu'on appelle Sila, donc cultiver l'éthique, la générosité, comme exercice. Et c'est un gros aspect lorsque nous retournons dans la vie. D'abord parce qu'il est très difficile de se ménager des temps d'assises tout seul chez soi. Certains arrivent. Beaucoup me disent combien c'est difficile et qu'ils n'arrivent pas. Donc, cultiver l'éthique comme exercice, nous pouvons nous souvenir de le faire. L'acte juste. Sauver. Juste avant, j'ai sauvé un petit orvet. Je crois bien que c'était un orvet. C'était une sorte de ver de terre, mais il était tout gris. Je crois que c'était un bébé orvet. Voilà, quand on voit un animal, rien ne nous empêche de le sauver. Soigner notre générosité, faire des cadeaux, ça n'a pas besoin d'être de grands cadeaux, des petites choses. Travailler la parole. C'est vrai que c'est agréable de causer, mais nous pouvons sentir même dans un groupe combien c'est bon d'avoir quelqu'un qui n'a pas cette... non-maîtrise du langage. Ce n'est pas que nous passions inaperçus lorsque nous ne disons rien. La présence peut être parfaitement posée et importante en termes d'énergie pour le groupe. La parole, nous pouvons la cultiver. Il y a des choses à cultiver et des choses à éviter. J'en ai déjà un peu parlé. Non, c'est pas à vous, je crois que c'était au grand groupe à la fin, ceux qui partaient. Il y a d'abord être sincère, ne pas dire de mensonges. Cultiver la sincérité. Ça n'est pas une authenticité ou une sincérité brute, où je dois tout dire, mais c'est une sorte de droiture. On peut arranger un peu la réalité pour notre avantage. D'abord, on commence à voir. Ah ouais, là, j'ai arrangé. C'est pas tout à fait... Ouais, pas tout à fait ça. Et puis, ça, c'est à cultiver. Est-ce que nous pouvons lâcher? C'est les moments où nous mentons pour une raison ou pour une autre. En général, c'est pour nous valoriser, pour rendre les choses un peu plus intéressantes. La méditation fait que nous le voyons. Et c'est intéressant de voir comment ça fonctionne parce que le Bouddha parle d'une bonne honte. Des choses que nous faisions et qui ne nous troublaient pas tellement que ça commence à franchement nous troubler. On se dit franchement, attends, voilà, j'ai vraiment loupé le coche. Je le loupais vraiment souvent avant, mais c'était pas aussi pointu. Et c'est une souffrance qui est bonne parce que ça permet de lâcher ces paroles ou ces actes qui sont non bénéfiques, qui complexifient les choses simplement parce que le moi doit exister ou a peur de ne pas assez exister. Et puis le Bouddha a parlé de la parole qui est bienveillante ou douce, plutôt que la parole qui est dure. Et ça, c'est en termes de contenu. Nous pouvons avoir une méchanceté dans les mots, mais nous pouvons aussi avoir une dureté dans le ton. De travailler également comment je dis les choses et ce que je dis dans le contenu de ce que je partage. Alors de nouveau, cultiver ce qui est posé et tendre au niveau du ton et un contenu qui est bienveillant, qui favorise la concorde, la bonne entente. On ne va pas vouloir monter celui-ci contre celui-là ou parler longuement de comme celui-ci a manqué. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons rien dire, mais il y a une différence. Avoir en conscience le discernement, c'est tout un travail, hein, c'est intéressant. Et le dernier aspect, c'est le commérage. Une réflexion sur ce que c'est que. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je passais des heures avec mes copines à parler de ceci, de cela. Oh, maintenant, je fais plus ça, d'abord, j'ai plus le temps. Je suis sauvée par le temps, par mes petits-enfants. Mes petits-enfants me sauvent. Donc, vraiment avoir conscience de l'importance de la parole. Nous pouvons tuer avec nos mots. Nous pouvons tuer avec nos mots. Autant ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a cette bienveillance pour autrui. Autant quand nous nous sentons jugés, rejetés, ça fait mal. Et ce que nous n'aimons pas qu'on fasse à nous-mêmes, nous ne le faisons pas à l'autre. Compassion dans ce chemin d'éthique, parce que nous n'allons pas toujours être parfaits. Nous allons continuer quelquefois à ne pas faire bien. Et c'est dur. Ça y est, je lui ai fait mal. C'est fait. Et peut-être qu'effectivement, j'ai fait mal, peut-être pas. Suivant les situations, je peux vérifier. Souvent, nous grandissons le mal que nous faisons. Mais toujours est-il que l'impression d'avoir manqué, d'avoir fait mal est là et que. Eh bien, qu'est-ce que j'en fais, hein? Alors, dans le meilleur des cas, je prends mes responsabilités. Autrement, je peux éviter de voir. Il y a plusieurs procédés de processus ou habitudes de fuite ou de prétention. mais je peux voir. Ok, je prends ma responsabilité, c'est fait. C'était pas bénéfique. Donc c'est pas la faute de la situation, c'est pas la faute de l'autre. C'est en moi. La première chose, c'est de laisser la responsabilité à l'autre, de pas commencer à projeter sur « Ah mon Dieu, l'autre !» Ok, peut-être qu'il va me juger, moi m'aimer, c'est son problème. De rester en moi, dans ma propre responsabilité, sentir que si je mets une notion de faute, ça crée une dureté inconsciente. Et à ce moment, la seule chose à faire, c'est la compassion envers soi-même. Donc, c'est intéressant de voir lorsque nous avons fait du mal à autrui et que nous croyons avoir fait du mal à autrui, vient ce tremblement intérieur et ce sens du moi. Et souvent, c'est ce sens du moi qui prend possession de l'instant et qui crée le problème. Et si nous pouvons voir ça et éviter que le sens du moi ne crée le problème, alors nous pouvons vraiment venir avec la compassion. Ok, j'ai manqué. Et nous pouvons sentir comment le corps se tend, comment le cœur s'affole, comment le mental devient confus.
Donner un exemple.
Tu dis quelque chose ou tu as une attitude. Et puis il se passe un petit moment. Et puis ça te va pas. Quelque chose qui va pas. Ça va pas. Ce que j'ai fait là, ça va pas. Il y avait une expérience avant, il y a une expérience maintenant. Alors la tendance, c'est d'immédiatement saisir avec le mental et puis en faire un problème. Ouais mince, alors là j'ai loupé le coche, il faudrait... Ça c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est de venir dans l'intimité de l'expérience, sentir, ah ben ouais, le corps n'était pas tendu, mais il est tout tendu. Il y a eu juste ça, j'ai juste dit ça. Le corps est tout tendu. Mon cœur, il est tout affolé, mais ils ne vont plus m'aimer... Il va partir, enfin, les projections qui accompagnent l'affolement du cœur. Voilà. Je crois que chacun peut avoir un exemple, c'est assez simple.
Mais contrôler chez l'autre ?
Pardon ? Oui, on peut aller vérifier chez l'autre, on peut le faire. Mais quelquefois, c'est difficile. Nous ne sommes pas si simples de pouvoir aller vérifier chez l'autre, en tout cas dans le moment. Parce qu'il y a cette... ce qui s'en mêle, c'est cette peur de l'abandon, cette peur du jugement. C'est vraiment cette menace première de l'enfant qui est abandonné. C'est une survie qui vient là. Donc le mental cherche, et si cette quête à ce moment-là, c'est une quête ancrée dans la sagesse, elle mène forcément à la compassion. Forcément. Et si l'autre a pressé le bouton, compassion pour moi et pour l'autre. Ok, il a pressé le bouton, mais j'ai bien réagi. Le Bouddha parle... Il y a une dans le Upadana. Est-ce que je vous en ai déjà? Oui, je vous en ai déjà parlé, mais je peux vraiment le reprendre. Le Bouddha dit celui qui se met en colère. Non, il est pire de répondre à la colère par la colère que d'être en colère en premier. Pourquoi? Celui qui répond à la colère par la colère, ou plutôt celui qui ne répond pas à la colère par la colère, se sauve lui-même et sauve l'autre. On sauve deux personnes. Alors que celui qui répond à la colère, se perd lui-même et perd l'autre. Donc notre responsabilité, c'est toujours devenir en soi-même. Ok, l'autre a pressé le bouton, mais enfin, il y aura toujours un qui pressera le bouton.
J'aurais juste une question, c'est possible. Quand justement, dans un entretien où il y a eu colère et on n'a pas répondu, et que l'autre continue dans sa colère.
Ben, tu continues à ne pas répondre.
Et on rajoute et cherche à culpabiliser en plus et pense que...
Je pense que si toi tu es inébranlable, il arrête. Mm-hmm. Franchement. Mais vérifie.
Mais notre rôle en tant qu'être qui essaye d'être compassionné, c'est pas de faire comprendre à l'autre que...
Tu veux bien qu'on prenne un entretien individuel, Catherine? Tu reprends exactement cet exemple, ok? Autrement, ce sera un peu long. Donc, ne pas croire parce que nous avons fait une semaine de retraite, que nous allons sortir dans le monde et que notre réponse sera parfaite. Pour risquer d'être déçu. Avoir de la compassion pour le temps que la transformation intérieure prend et comprendre les règles différentes entre comment faire avec l'exercice de la méditation en moi, quand je peux prendre mes responsabilités, j'ai vraiment non seulement le droit, mais il y a la nécessité de laisser être. Mais si je commence à confondre, et que quand je suis en colère, je me dis, oh, bon, ben, je vais laisser être, il y a une grande confusion. Okay? L'aspect de l'éthique, il doit être maîtrisé et cultivé en termes de bénéfiques. Je vais éviter de laisser d'extérioriser ce qui est non bénéfique. Je vais vraiment cultiver la générosité, la bonté du cœur, l'acte juste, la parole juste, dans mon mode de vie juste, là le mode de vie, ça peut être de décider de sauver les animaux plutôt que de... les tuer à part les mythes.
Les moustiques, certaines fois, quand même.
À part les mythes, mais vous pouvez toujours. L'éthique. J'ai une jolie histoire quand j'étais dans les Pyrénées. J'ai été enseignée une retraite dans les Pyrénées. Et puis on a fait un grand bouquet de. C'était de ces fleurs jaunes qui ont des piquants. Bref, de ces fleurs qu'il y a là-bas. Plein. Je sais pas, le nom m'échappe juste maintenant.
Les genêts.
Et puis, à un moment donné, je me lève et puis je vois un tic par terre. Alors bon, je le prends. Et puis j'ai eu un moment de doute, j'en fais quoi? Et puis je suis allée le mettre assez loin de l'autre côté de la barrière en me disant, ben, j'espère qu'il n'a pas léché sur quelqu'un d'autre. Je n'étais pas tout à fait bien. Bon, puis après, c'était la fin de la méditation. Puis il y a un gars qui dit, hé, il y a une petite araignée. Puis je l'ai regardé, c'était encore un tic. Alors je l'ai pris moi, pour pas qu'il se fasse du mauvais karma, puis je vais le mettre dans le lavabo. Puis après il y en a encore eu deux. Alors voilà, on a tous fait une petite prière pour les tiques. On est allé les mettre dans les lavabos. Oui, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de... Si vous voulez, entre la sagesse et la compassion, il faut aussi être intelligent et avoir du bon sens. La sagesse me dit, la vie n'est pas autre que la mort. Qu'est-ce qui me dit que c'est mieux d'être vivant que d'être mort? C'est que l'attachement à la vie. On est bien d'accord. La compassion me dit, ma nature humaine aime bien vivre, je vais faire que toutes ces bonnes petites bêtes qui sont là, elles puissent vivre. Mais on ne va pas commencer à faire un monstre problème de la vie et de la mort. C'est une question d'intention. Et c'est vrai que même Goenka disait, si vous faites un jardin, ah, puis ma foi que vous avez trop de limaces, ben voilà. Thank you. Après, vous pouvez toujours sauver quelques moustiques à la place.
Ils ont des mantras, hein, pour tous les lacets, ils ont des mantras pour les... pour qu'ils soient...
Pour les neutraliser.
Pour neutraliser les tiques.
Les insectes, tout l'invisible.
Là, c'est une grande discussion. Il y a des opinions, il y a beaucoup de choses. Hein. Tout est bien. Donc, d'une certaine manière, nous pouvons voir comment, dans le laisser-être de l'expérience, maintenant je reviens à l'exercice, dans le laisser-être de l'expérience, la compassion est nécessaire. Vous avez tous expérimenté dans cette retraite comment, parce qu'il y a eu le laisser-être, des douleurs physiques, des histoires, des émotions perturbatrices, des pensées envahissantes, obsessionnelles, parce qu'il y a eu un travail fait aussi massivement sur la conscience, comment à un moment donné il y a un lâcher prise. Lâcher prise du corps qui tout à coup se détend, lâcher prise au niveau du cœur qui tout à coup est paisible. Et lâcher prise du mental où tout à coup il y a une clarté, détente, confiance et clarté, tout à coup. Et dans le laisser-être, il y a en général pas mal de compassion à mettre en place et sentir la joie qui vient dans le lâcher-prise. C'est bon lorsque le « je » lâche. Et nous pouvons sentir peut-être comment c'est un renoncement. Tout à coup, ça lâche, ça veut dire que je renonce. Je renonce à tenir à ma douleur physique, à mes émotions perturbatrices, à mon mental qui contrôle. Il y a un renoncement. Et combien c'est bon. Détente, simplicité, ouverture. Tout d'un coup, je peux goûter cette beauté du rien. Donc d'abord le stress est inconscient et puis nous mettons la lumière sur l'attachement, l'aversion, l'aveuglement. Ça devient conscient et puis ça lâche. Et nous pouvons peut-être faire l'expérience du fait que nous ne pouvons pas vouloir lâcher. C'est une grande expérience que vous avez fait là. Je vous lis les paroles des enfants, parce que l'enfant, il sait ça inconsciemment. Il ose laisser être le doute, l'aversion, le désir à l'état pur, parce qu'il sait que ça change inconsciemment. Il ne fixe pas par la pensée et il ose détester l'autre parce qu'il sait que l'autre n'est pas l'autre. L'autre est lui. Il n'y a pas de différence. Cette énergie dans l'instant est pure. Alors, je vous lis quelques petites paroles sur le doute. C'est Thomas qui dit « Cher Dieu, c'est cool que tu aies fait des religions différentes, mais est-ce que tu ne te trompes pas de temps en temps ?» Et toujours pour le doute. Cher Dieu, je pense à toi, ça doit être dur d'aimer les gens du monde entier. Dans ma famille, on est 4, je n'y arrive pas. Ou bien une petite Margot, toujours pour le doute, qui dit « Cher Dieu, pour la girafe, tu l'as fait exprès ou c'est un accident ?» Et puis, les désirs, c'est Romain qui dit « Cher Dieu, merci pour mon petit frère, mais t'as pas bien écouté mes prières. J'avais demandé un petit chien. Et puis, Jules qui dit, cher Dieu, peut-être que Cain n'aurait pas tué Abel s'ils avaient eu chacun leur chambre. Avec mon frère, ça marche. Et puis, Charlotte, cher Dieu, si on doit revivre dans quelqu'un d'autre quand on est mort, je veux pas que ce soit dans Myriam Redier parce que je la déteste. Et puis encore une pensée de doute, c'est Pauline. Cher Dieu, au lieu de laisser mourir les gens pour en faire des autres, pourquoi tu gardes pas ceux qu'on a déjà? Et puis, ça c'est Antoine. Cher Dieu, s'il te plaît, envoie Guillaume Petit dans une autre colonie de vacances cette année. Merci d'avance. Donc, n'hésitez pas à retrouver votre cœur d'enfant. Et par rapport à la compréhension juste, souvenez-vous que dans le monde, toute cette sagesse que nous développons et qu'il est essentiel d'appréhender avec la pensée et de vérifier dans le corps en retraite, toute cette sagesse, elle ne s'exprime que par la bonté du cœur. C'est vraiment l'aspect de l'éthique et de la générosité qui exprime la sagesse dans le monde. Je vous lis encore une pensée par rapport, pour que vous souveniez. Des fois, les lectures sont bonnes pour stimuler le souvenir. Après une longue période de vie commune, passée dans l'étude et la méditation, trois disciples quittèrent leur vieux maître pour aller dans le monde. Au bout de 10 ans, ils rentrèrent. Ils s'assirent auprès de lui et le vieux moine leur demanda de raconter leur expérience pendant leur voyage. « Moi, dit le premier, j'ai écrit beaucoup de livres de sagesse. J'en ai vendu des millions d'exemplaires. »« Tu as rempli le monde de papier, dit le maître. » « Moi, dit le deuxième, j'ai parlé de la parole de Dieu à des milliers de gens dans des centaines de pays. »« Tu as rempli le monde de paroles, dit le maître. »« Moi, dit le troisième, je t'ai apporté ce coussin afin que tu puisses y poser ta jambe malade. »« Toi, dit le maître, toi, tu as trouvé Dieu. » C'est dans l'acte que se vérifie notre sagesse. Ça n'est pas dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit. C'est vraiment dans l'acte simple qui est au service. Et par rapport à l'aspect de Sila, de l'éthique, je vous lis aussi une parole, parce que là, il y a vraiment à être conscient du bien et du mal. Autant dans le laisser-être de l'expérience dans l'instant, ce bien et ce mal nous entravent sans cesse, autant dans le monde extérieur, il est nécessaire de cultiver ce qui est bénéfique et d'éviter ce qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que c'est la loi du karma. Que j'ai une pensée de colère, c'est essentiel que je la conscientise, sinon elle ne partira pas. Mais si je l'agis, il faut tout repurifier. Ah, ça recommence. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faute. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser. L'autre, il fait sa part. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais pour vous, c'est vraiment une tâche sur la conscience. Et il faut voir, il n'y a rien qui se perd, rien qui se crée. Sagesse amérindienne. Un soir, un vieux Cherokee parlait à son petit-fils du combat qui a lieu à l'intérieur des gens. Il disait « Mon petit, il y a une lutte entre deux loups à l'intérieur de chacun de nous. L'un est le mal. C'est la colère, l'envie, la jalousie, le chagrin, le regret, la cupidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, l'amertume, le sentiment d'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la supériorité. L'autre, c'est le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la compassion et la confiance. » Le petit-fils réfléchit pendant quelques instants, puis il demande à son grand-père « Quel loup va gagner ?» Et le vieux Cherokee a simplement répondu « C'est celui que tu nourris. » Mm-hmm.